lundi 20 février, vous entrez dans Le Débrief, votre rendez-vous info de fin de journée à l'antenne du 107.9 FM. Alexis Gagnon au micro, merci d'être là. Bienvenue à tous les auditeurs francophones et francophiles de la grande région de Victoria. C'est Denis Lepine qui assure le botté d'envoi de cette première édition de la semaine avec ses deux bulletins d'actualité. Au retour, dans 4 minutes, on s'intéresse à la météo. C'est 7 degrés actuellement au centre-ville de Victoria avec 70% de probabilité d'averse au cours des prochaines heures. En interview, plus tard dans l'émission, vers 16h45, après les revues de presse, nous recevons Dominique Wozniak de la Société francophone de Victoria à propos du spectacle Juste pour rire du jeudi 8 mars. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Santé Canada a annoncé qu'il présenterait une proposition de règlement pour la position obligatoire d'autocollants d'avertissement sur tous les opioïdes distribués au Canada. Santé Canada voudrait également la remise de feuillets de renseignement à l'intention des patients. L'autocollant avertirait les patients des risques de dépendance. Santé Canada a précisé mettre en place une telle politique en se basant sur les recommandations du Comité consultatif scientifique externe sur les opioïdes. Celui-ci s'est réuni l'automne dernier. Transport Canada a annoncé que la demande du ministre Garneau de voir les compagnies aériennes canadiennes confirmer que leurs protocoles de sécurité ont été mis à jour a reçu l'appui de 8 des plus grandes compagnies aériennes du pays. Le ministère a déclaré que ces entreprises ont confirmé qu'elles avaient des protocoles de sécurité appropriés à la détection de l'alcool et de la drogue. Ces compagnies transportent 90% de tous les passagers aériens au Canada. Les mesures visent à vérifier notamment l'aptitude au vol des pilotes. Au Canada, rappelons qu'un membre d'équipage de conduite qui travaille dans les 8 heures suivant la consommation d'alcool commet une infraction criminelle. La Défense nationale a fait le point dans le dossier de l'opération Neptune Trident. Le ministère a déclaré que les navires NCSM Summerside et Moncton sont en direction de l'Afrique de l'Ouest pour prendre part à l'opération. Le contre-amiral John Newton, commandant de la Force opérationnelle interarmée de l'Atlantique, a dit que Neptune Trident est une occasion idéale pour utiliser les compétences de la Marine royale canadienne dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités. Des rencontres sont organisées avec plusieurs pays de l'Afrique occidentale pour appuyer les entraînements interarmés et tisser des liens dans la région du Golfe de Guinée. Le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, est à Sydney, en Australie, aujourd'hui. Il participe au 5e forum sur le leadership économique Australie-Canada. La réunion de 3 jours est organisée par le secteur privé et parrainée par les gouvernements du Canada et de l'Australie. Plus de 150 dirigeants politiques et chefs d'entreprise désireux de promouvoir le commerce et la coopération entre les deux pays sont sur place. Le Canada a accueilli ce forum à 2 occasions dans le passé, en 2012 à Toronto, puis à Vancouver il y a 2 ans. L'Irak a lancé une opération dimanche pour reprendre la ville de Mossoul. L'opération a été confirmée par le président Al-Abadi à la télévision nationale. La ville est aux mains d'État islamique depuis 2014. L'agence France Presse a rapporté d'importants bombardements terrestres et aériens. Dans une déclaration officielle, le général Stephen Townsend, commandant de la coalition internationale, a indiqué qu'il s'est félicité de la reprise de l'offensive. Il a parlé de rudes combats pour toute armée, quelle qu'elle soit. Justin Trudeau est rentré de son voyage en Europe. Le bureau du premier ministre a souligné que cela fut une visite fructueuse en France et en Allemagne et qui a permis de resserrer les liens entre le Canada, l'Allemagne et l'Union européenne. Justin Trudeau a déclaré que cela a été un grand honneur d'avoir été le premier ministre canadien à prendre la parole devant le Parlement européen complet à la suite du vote en faveur du libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Il s'est dit aussi impatient de retourner en Allemagne en juillet prochain pour la rencontre du G20. Rapport Perspective agricole canadienne 2017 d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Selon le document, le revenu net devrait diminuer en 2017, mais sera au-dessus de la moyenne de 2011 à 2015. Le rapport nous apprend que le revenu net devrait perdre 7% en 2017. Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence McAuley, a dit qu'Ottawa va favoriser la croissance soutenue du secteur en investissant dans la recherche et l'innovation tout en ouvrant de nouveaux marchés. Au sport au hockey, bien victoire par blanchissage de Toronto contre la Caroline 4-0. Winnipeg a vaincu Ottawa 3-2 et Philadelphie a surpris Vancouver à domicile 3-2. Ce soir, eh bien, la Floride sera à Saint-Louis et Anaheim en Arizona. NBA, match des étoiles à la Nouvelle-Orléans. L'Ouest a vaincu l'Est 192-182. Le calendrier régulier reprendra jeudi. Les Raptors, eux, disputeront leur prochain match vendredi contre Boston. Et course automobile, eh bien, Chase Elliott a devancé Dale Earnhardt Jr. aux qualifications du Daytona 500 pour ainsi décrocher la position de tête pour le départ de la 59e édition de la célèbre course dimanche prochain.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre fréquence francophone communautaire dans la grande région de Victoria. C'est Alexis Gagnon au micro. Bon retour à la maison si vous rentrez du travail ou si vous êtes à la maison tout simplement en train de nous écouter tranquillement. On a 8 degrés au centre-ville actuellement. Ça oscille entre 7 et 8 et le mercure des descendra à 4 degrés en soirée. 70% de probabilité d'averse au cours des prochaines heures. Ça se dégage demain matin, un autre maximum de 8 degrés. Ça demeure ainsi au cours des prochains jours. 7 et 8, ce sont les maximums pour mardi, mercredi et jeudi. Donc, partiellement dégagé demain, maximum de 8. Mercredi 22 février, il pourrait y avoir des averses. On parle même de possibilité de quelques flocons sur le site d'Environnement Canada, ça n'est pas certain. La probabilité est assez mince, tout de même 30% de probabilité d'averse de pluie ou de neige, donc à surveiller pour mercredi 22 février. Jeudi 23 février, un ciel principalement ensoleillé avec un maximum de 7, alternance de soleil et de nuages. Et si on se projette encore plus loin, les vendredis 24 et samedi 25, c'est du soleil avec des maximums oscillant entre 7 et 9. Donc voilà pour le topo météo à 16h07. Merci d'être à l'écoute de CILS FM. On va se diriger vers le Radio-Journal des Nations Unies. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour cette nouvelle édition du journal d'ONU Info. Avec en titre le Soudan du Sud où la famine menace 5 millions de personnes. Le regain de violence en République centrafricaine, nous entendrons le président Touadéra. L'inquiétude du HCR et du PAM, 2 millions de réfugiés originaires de 10 pays africains souffrent de malnutrition. Et puis nous ferons un crochet par le Festival mondial du film de sécurité routière où le fléau du téléphone portable au volant est largement dénoncé. On commence avec le Soudan du Sud où la situation de famine a officiellement été déclarée par le gouvernement dans certaines régions du pays, notamment celle de l'Unité, région située au nord. Selon les Nations Unies, dans ces zones les plus affectées par les conflits et par l'effondrement de l'économie nationale, 100 000 personnes risquent de mourir de faim et 1 million sont classées comme étant au bord de la famine. Pour remédier à cette situation, plusieurs agences, dont la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, se mobilisent et prônent un accès sans entrave aux populations. On écoute Lucas Russo, il est conseiller stratégique principal pour la résilience au siège de la FAO.
Le gouvernement a accepté qu'il y a une situation de famine, donc on espère que tout sera fait pour qu'il y ait un accès humanitaire. Une fois qu'on a assuré l'accès humanitaire, il faut faire deux choses. La première, c'est la chose la plus normale, c'est-à-dire de pouvoir apporter de l'assistance alimentaire, qui est fondamentale pour sauver des vies aujourd'hui. Mais en même temps, il faut commencer à aider ces populations à reconstruire leur mode de vie et donc les apporter un appui aussi dans le secteur agricole, qui est absolument fondamental. La prochaine récolte sera au mois d'août, donc d'ici le mois d'août, il n'y aura aucune nouvelle production. Donc c'est absolument fondamental de restaurer la production dans les prochains mois. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 100 000 personnes dans une situation de famine. On ne peut pas dire exactement s'il y a eu déjà beaucoup de morts. Certainement, il y en a eu quelques milliers, il n'y a pas de doute sur ça. Si on n'aura pas une production agricole d'ici le mois d'août, la situation ne peut qu'empirer, donc on se trouvera devant une situation de famine absolument massive.
Afrique toujours et l'inquiétude que suscite le regain de violence en République centrafricaine. Dimanche, 5 organisations, dont l'ONU et l'Union africaine, ont exprimé leur profonde inquiétude donc concernant la dégradation de la situation sécuritaire dans les préfectures de la Waka et de la Haute Koto. Ce lundi, au micro de notre radio partenaire Guira FM, le président Faustin Archange Touadéra condamne avec fermeté les violences et promet de se rendre prochainement à Bambari. On l'écoute.
Nous avons condamné ces violences. Nous continuons à demander aux groupes armés d'arrêter la violence. Ça ne sert à rien. J'ai invité tout le monde à la table de négociation, des discussions. J'ai invité tous les groupes armés. Aujourd'hui, notre pays est allé aux élections. On a élu un président de la République sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a pas de raison que les groupes armés continuent toujours de semer vraiment la violence, de semer la mort parmi le peuple centrafricain. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir restructurer nos forces armées, restructurer les forces de défense de sécurité intérieure pour que l'autorité de l'État puisse s'exercer sur l'ensemble du territoire. Bambari ne saurait être exclu. Je sais qu'ils vivent des moments difficiles à cause de la volonté des va-t-en-guerre, des gens qui sont contre la paix. On ne peut pas tout résoudre avec les armes. Et de toute façon, dans les prochains jours, nous irons à Bambari.
Afrique encore, de graves pénuries alimentaires frappent 2 millions de réfugiés dans 10 pays du continent. Les rations alimentaires ont été fortement réduites au Cameroun, au Tchad, au Kenya, en Mauritanie, au Soudan du Sud et en Ouganda. Les réfugiés au Burkina Faso, à Djibouti et au Burundi, mais aussi en Éthiopie, subissent des réductions des aliments enrichis en micronutriments. Le HCR et le PAM avertissent que ces pénuries, dues à un manque de financement, pourraient empirer dans les mois à venir. Bettina Lucher, porte-parole du PAM.
Le monde est submergé par les besoins. Les humanitaires luttent sur tant de fronts, dans tant de pays avec des besoins sans précédent. C'est là la question. Et les réfugiés sont ceux qui ont quitté leur pays d'origine et qui vivent parfois depuis des années dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. Quelques 2 millions d'entre eux souffrent vraiment actuellement. Nous avons dû couper des rations alimentaires dans plusieurs pays et des aliments nutritionnels spéciaux pour les enfants dans d'autres. Et cela intervient alors que la population réfugiée en Afrique a doublé au cours des 6 dernières années. Les donateurs ont été très généreux, mais ils sont présents sur tellement de fronts. Toutefois, nous ne pouvons pas négliger ce qui se passe en Afrique. Nous devons nous assurer que les gens obtiennent une bonne nutrition et particulièrement empêcher que les enfants souffrent de malnutrition aiguë.
Enfin, ouverture ce lundi à Genève du Festival mondial du film de sécurité routière. Cette année, les participants ont beaucoup abordé la question des risques du téléphone portable au volant. Pour mémoire, les accidents de la route tuent chaque année dans le monde 1 250 000 personnes et en blessent 50 millions d'autres. Sophie Coré est présidente du Forum européen des jeunes pour la sécurité routière.
C'est un festival qui existe depuis 2006, qui mobilise le plus de pays dans le monde pour les encourager, les motiver à produire des films de sécurité routière. Donc il n'y a à ce jour aucun autre festival qui mobilise tous ces pays pour produire des films de sécurité routière. Ce qui est très surprenant, c'est que cette année, nous avons un thème qui est vraiment prédominant, qui est monté en puissance par rapport aux années précédentes, c'est en fait les distracteurs, notamment le téléphone portable au volant. Ça, c'est un thème vraiment prédominant que tous les pays qui nous ont soumis des films, en fait, nous ont parlé. Ils nous ont parlé beaucoup du portable au volant. Et donc, ça va très très bien avec les jeunes qui utilisent de plus en plus leur portable avec leurs applications, les SMS, le Facebook, etc. Et donc, c'est un thème qui ressort beaucoup cette année.
Retour sur l'actualité, le gouvernement sud-soudanais a donc pour la première fois déclaré l'état de famine dans plusieurs zones du pays. Selon plusieurs agences humanitaires, cette situation est causée par l'homme, c'est-à-dire par la guerre qui ravage le pays depuis plus de 3 ans. Près de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire, nutritionnelle et agricole d'urgence, selon les organisations de l'ONU. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a joint sur place Serge Tissot, il est représentant de la FAO au Soudan du Sud.
Il y a toujours eu un problème de sécurité alimentaire latent, mais depuis la crise de décembre 2013, on est maintenant dans une situation d'insécurité alimentaire généralisée sur le Sud-Soudan. Même depuis 2016, on a une extension de cette zone d'insécurité alimentaire dans d'autres régions du pays. Et ces zones d'insécurité alimentaire sont essentiellement dues à des problèmes de conflits armés. Je prends l'exemple de la région équatorienne où on a des conflits qui sont en cours depuis maintenant 6 mois et cette zone équatorienne est un peu le grenier à grains pour l'ensemble du pays. Et comme les conflits se sont déclarés en 2016 au moment de la première saison et au moment de la plantation de la seconde saison, il n'y a pas eu de récolte dans cette zone-là, donc il y a un déficit au niveau de nourriture sur l'ensemble du pays. Mais ce n'est pas les seules raisons. Il y a d'autres zones où il y a des conflits qui sont intervenus. Et on peut dire que l'ensemble du marché de de la nourriture dans le pays est désorganisée.
Quand vous rappelez la situation de conflit dans ce pays, est-ce quelque part pour montrer que cette famine au Soudan du Sud est causée par l'homme?
Principalement, il y a toujours un problème de déficit alimentaire dans le pays, mais ce déficit alimentaire était résolu grâce à de l'aide extérieure, mais également par les marchés. Les marchés couvraient une grande partie des déficits alimentaires. Maintenant, on est arrivé à de tels niveaux de déficit alimentaire que le pays ne peut plus subvenir à ses besoins. La monnaie a complètement dévalué. La population n'a plus le moyen d'acheter de la nourriture dans l'extérieur. Et maintenant, on est dans une telle urgence qu'on a dû déclarer la famine dans la zone du centre de l'ancien état d'unité, où maintenant on a les gens qui meurent de faim parce qu'ils n'ont plus accès à la nourriture.
Combien de personnes meurent de faim présentement selon vos estimations et combien mourront de faim selon vos prévisions?
Si on parle de la sécurité alimentaire dans le pays, on a un système de classification en 5 classes. La dernière classe, c'est la famine. Mais déjà dans la classe numéro 3 et la classe numéro 4, qui sont des classes en crise et en urgence, on a déjà un nombre très important de personnes. Actuellement, on a 4 900 000 personnes qui sont déjà dans ces classes 3, 4 et 5. Et avec la saison qui avance, avant la prochaine récolte au mois de juillet, on va évoluer vers 5,5 millions de personnes qui vont être en insécurité alimentaire, en crise, en urgence ou en famine. Ça représente 50% de la population. Maintenant, si on parle des gens qui meurent actuellement, qui sont dans les zones où on arrive déjà trop tard parce que la famine est installée, on a évalué ça à 100 000 personnes actuellement dans les zones de l'Air, Koch et Mayendi.
Comment comptez-vous résoudre ce problème?
Il faut que le gouvernement aide l'action humanitaire pour intervenir partout, parce que le conflit est quand même assez fragmenté, mais je crois que le support du gouvernement et de tous les partis intervenant dans le conflit est important pour donner l'accès à l'aide humanitaire. Tout est lié à un problème de paix dans le pays et d'accès au niveau des terres agricoles.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
16h17 à l'antenne de CILS FM 107,9. Nous avons 8 degrés au centre-ville de Victoria. La pluie est fort probable dans les prochaines heures. On a une probabilité d'averse de 70%. Il y a déjà des gouttes de pluie du côté de Souk et de Mutchosen. Donc, ça va arriver sur Victoria au cours de la prochaine heure. Donc, quelques averses à prévoir. On va passer aux nouvelles provinciales à présent. On commence par une nouvelle aperçue dans le fil de la presse canadienne. La Colombie-Britannique a conclu une entente sur les transferts fédéraux en santé. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a conclu une entente avec Ottawa sur les transferts fédéraux en santé, qui comprend notamment une enveloppe extraordinaire de 10 millions de dollars pour la lutte en première ligne contre la crise des opioïdes qui frappe de plein fouet cette province. L'entente prévoit la hausse annoncée de 3% par année des transferts fédéraux en matière de santé et une enveloppe supplémentaire de 1,4 milliard sur 10 ans pour les fonds dédiés. Donc 785 millions pour les soins à domicile, 654 millions pour la santé mentale. Depuis, le gouvernement fédéral versera 10 millions de dollars à la Colombie-Britannique pour qu'elle puisse faire face à la crise des opioïdes qui a fait 914 morts en 2016 dans la province de Colombie-Britannique uniquement. Et c'était un triste record par rapport à 2015. On l'a souvent souligné dans l'émission Le Débrief. Donc cet article de la presse canadienne se poursuit ainsi. La Colombie-Britannique a indiqué vendredi que 116 personnes étaient mortes de drogues illicites en janvier. Donc le rythme infernal des décès se poursuit. Et si on annualise ce nombre de 116, ça permet de faire une projection qui dépasse les 1000 décès pour 2017. Donc il faut vraiment que la province puisse rompre avec cette tendance aussi tertiaire des décès par surdose aux opioïdes. Et donc, cet article qui paraît dans la presse canadienne est surtout intéressant pour deux choses. D'abord, on comprend que la province de Colombie-Britannique a rompu les rangs avec le bloc de provinces qui faisait une fronde contre le gouvernement fédéral. Donc, elle a accepté la province de traiter bilatéralement avec Ottawa pour les transferts fédéraux en santé. Autrement, on remarque bien sûr cette enveloppe exceptionnelle de 10 millions de dollars qui sera allouée à la lutte de première ligne contre la crise des opioïdes. Donc, on verra si 10 millions, c'est suffisant par rapport à l'ampleur de cette crise. On rappelle que la province est en état d'urgence sanitaire depuis le mois d'avril dernier. On poursuit cette fois dans le fil de l'agence France Presse, toujours à propos d'overdose, de surdose, et c'est un fait paradoxal. La vague d'overdose bénéficie aux dons d'organes. C'est le titre de cet article paru dans l'agence France Presse. La vague de décès par overdose qui frappe le Canada bénéficie aux dons d'organes, un développement aussi paradoxal qu'inattendu de la crise du fentanyl qui fait des ravages en Colombie-Britannique. Il y a plus d'organes disponibles pour des transplantations et une partie de ces organes provient de victimes d'overdose de drogue, a expliqué David Landsberg, directeur des services médicaux de transplantation de la province de Colombie-Britannique. Donc, cette corrélation poursuit l'article entre surdose au fentanyl et greffe d'organes est significative depuis la fin 2016, peut-on lire. Entre le début de l'année et le 15 février, 59 organes, donc cette année, 2017, 59 organes provenant de 20 donneurs ont été transplantés dans la Colombie, en Colombie-Britannique, selon les données, les toutes dernières données en date des autorités sanitaires. Donc un lien étonnant, paradoxal, qui est mis en relief ici dans cet article de l'AFP. Au Canada, la vague de surdose bénéficie aux dons d'organes. On poursuit cette revue des actualités provinciales de Colombie-Britannique, cette fois en retournant dans le portail de Radio-Canada francophone Colombie-Britannique, une subvention de 29,4 millions pour les écoles de la Colombie-Britannique. C'est le titre de cet article. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a créé la subvention pour l'apprentissage des étudiants, un financement de 29,4 millions de dollars qui sera donné aux écoles publiques et privées de la province au cours des prochaines semaines pour l'achat de fournitures scolaires. Les écoles devront accorder la priorité à l'achat de fournitures et de ressources qui permettront de réduire les coûts pour les parents et qui aideront les enseignants à offrir le nouveau programme d'études de la Colombie-Britannique, a fait savoir la province dans un communiqué publié au cours du week-end. Les 60 districts scolaires de la province recevront 27,4 millions de dollars, soit environ 50 dollars par enfant. Les écoles indépendantes recevront quant à elles 2 millions de dollars. Les libéraux de la Colombie-Britannique ont attaqué le système éducatif de la maternelle jusqu'à la 12e année au cours des 15 dernières années, a soutenu le NPD. Donc l'opposition, vous le devinez, n'a pas été impressionnée. Et il y a quelques déclarations qui sont recensées ici dans cet article en réaction à l'annonce des 29,4 millions. Donc, en substance, le NPD indique que ça n'est pas de l'argent neuf puisque des coupures équivalentes avaient été faites dans le système d'éducation auparavant. Donc, c'est de l'argent qui existait, qui avait été retiré et qui se retrouve réinséré, réinjecté dans le système à quelques mois seulement des élections provinciales. Donc le NPD qui pointe là un certain cynisme de la part du gouvernement libéral de Christy Clark. Vous trouverez ça dans le portail de Radio-Canada ainsi que le portail de CBC bien sûr. Autrement, venant du fil de l'agence QMI, on signale un léger tremblement de terre en Colombie-Britannique. Ça s'est produit en fin de semaine, vraiment très léger, rien de majeur. Un séisme de magnitude 4 a été observé samedi à 6h40 du matin, heure locale, à 120 km au nord-ouest de Pemberton, dans notre province. Donc, selon Ressources naturelles Canada, le tremblement de terre en question, dont l'épicentre a été localisé à environ 10 km de profondeur sous la terre, n'a causé aucun dommage et il a tout de même été ressenti dans des villes environnantes dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. On cite par exemple Powell River et Cumberland, donc dans cet épicentre qui était situé à 120 km au nord de Pemberton et à 10 km de profondeur sous la terre. Retour dans le portail de Radio-Canada, on signale que les villes de Colombie-Britannique ont obtenu le droit de légiférer la vente de cannabis. C'est la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a statué que les municipalités britanno-colombiennes ont le droit de réglementer les comptoirs de vente de marijuana. Le jugement confère aussi aux villes le droit de refuser de délivrer des permis d'exploitation à certains marchands de cannabis. C'est le propriétaire d'un comptoir de vente de marijuana d'Abbotsford dans la lointaine banlieue de Vancouver qui avait lancé le débat devant les tribunaux. Don Brière, qui possède plusieurs points de vente dans la région vancouveroise, s'est vu menacé de perdre son entreprise, tandis que la ville exigeait qu'il ferme boutique. Il a plaidé en Cour suprême de Colombie-Britannique qu'Abbotsford violait la Constitution canadienne en brimant l'accès à la marijuana médicale. Il arguait que la ville outrepassait sa juridiction, le cannabis étant une substance sous le contrôle du gouvernement fédéral. La juge dans cette cause a conclu que même si la marijuana est contrôlée par Ottawa, cela n'empêche pas une autre instance gouvernementale, un autre ordre gouvernemental comme l'ordre municipal, d'établir une réglementation afin de l'encadrer. Donc c'est une décision qui a été rendue au cours des derniers jours. Vous trouverez cet article complet sur le portail de Radio-Canada. Colombie-Britannique, les villes obtiennent le droit de légiférer la vente de cannabis. Et du côté du portail BC Local News, qui est souvent dans les colonnes du média local Victoria News, on nous annonce, toujours à propos de marijuana, qu'une étude du BC Center on Substance Use se penchera sur l'usage de la marijuana. C'est une étude qui se veut vraiment intégrale, couvrant tout le spectre des utilisateurs, une étude qui sera justement dont les conclusions permettront aux décideurs des différents ordres de gouvernement d'être mieux éclairés sur le sujet et de prendre de meilleures décisions. Donc c'est une étude qui se met en marche actuellement. Le BC Center on Substance Use a besoin de 1000 volontaires pour cette étude, et 1000 volontaires qui achètent leur cannabis dans ce qu'on appelle les boutiques de la zone grise de la région de Vancouver. Donc l'étude se penchera surtout sur le marché vancouverois. C'est dans BC Local News. Autrement, un communiqué a attiré notre attention cet après-midi. C'est un communiqué d'un grand syndicat britanno-colombien, BC Government Employees Union, qui signale que la violence est de plus en plus en hausse. On constate un accroissement de la violence dans les prisons. Et c'est le service correctionnel de Colombie-Britannique ici qui est en cause. 39% d'augmentation des agressions contre des agents correctionnels entre 2014 et 2015. Et au cours de 2015, une autre augmentation de 20% constatée. Donc c'est la sonnette d'alarme, si vous voulez, que tire cet organisme, le BC Government Employees Union. C'est un syndicat britanno-colombien qui comprend notamment dans ses rangs les agents des services correctionnels de la Colombie-Britannique. Donc, hausse de la violence dans les prisons de Colombie-Britannique. Ce sera sans doute repris par les médias au cours des prochains jours. Le communiqué a été émis aujourd'hui, 20 février. Et maintenant, un petit retour dans le temps. On prend une sorte de machine à remonter le temps dans le portail de Radio-Canada pour terminer ce bloc provincial. Radio-Canada nous rappelle qu'en 87, il y a 30 ans, la vente libre de préservatifs prenait son envol en Colombie-Britannique. Il y a 30 ans, la Colombie-Britannique autorisait la vente libre de préservatifs dans les magasins et dépanneurs et supermarchés, une transaction qui était auparavant sous la responsabilité des médecins et des pharmacies. Alors évidemment, c'est la crise à l'époque, la crise du sida qui avait engendré cette mesure de santé publique, et quelques années plus tard, les préservatifs avaient été également mis à la disposition des étudiants dans des distributrices. Donc cet article fait un petit peu un retour en arrière pour nous expliquer comment la vente libre de préservatifs a été établie il y a maintenant 30 ans en Colombie-Britannique. En 1987, la vente libre de préservatifs prenait son envol en Colombie-Britannique. C'est sur le portail de Radio-Canada, Colombie-Britannique. On va s'arrêter quelques instants pour écouter l'artiste Raphaël Dénommé, une pièce qui s'intitule La main. On va se retrouver de l'autre côté dans 3 minutes avec les nouvelles du jour. À tout de suite. Dénommé dans le débrief à 16h32. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. On va passer aux nouvelles du jour. C'est assez chargé. Beaucoup de sujets à aborder dans cette revue de presse qui précède les éditoriaux et l'interview. Alexis Gagnon au micro avec vous jusqu'à 17h. On va commencer par une nouvelle aperçue dans le fil de la presse canadienne. C'est une nouvelle qui date de vendredi, ou plutôt de dimanche, mais je tenais à vous la signaler. Les candidats conservateurs croisent le fer à Vancouver. Plusieurs candidats à la direction du Parti conservateur canadien se sont affrontés sur la taxe sur le carbone, une mesure que propose d'adopter l'actuel gouvernement fédéral, lors d'un débat à Vancouver dimanche 17 février. 9 des 14 candidats à la succession de Stephen Harper ont participé à ce débat au cours duquel plusieurs centaines de personnes ont assisté. Michael Chung a dit appuyer la mesure. Selon lui, cette politique est une bonne idée qui permettra de réduire l'impôt sur le revenu de plusieurs milliards de dollars. Plusieurs candidats importants, dont Kevin O'Leary, Kelly Leach et Maxime Bernier, n'étaient pas présents à ce débat. Le prochain débat officiel entre les candidats à la succession de Stephen Harper se déroulera le 28 février à Edmonton. Et rappelons que le congrès à la direction du Parti conservateur du Canada aura lieu les 26 et 27 mai à Toronto. Donc le titre de cet article, les candidats conservateurs croisent le fer à Vancouver. Dans le journal Le Devoir, nuages d'incertitude au-dessus des sables bitumineux. Après Statoil et pétrolière impériale, Exxon change de cap. Les enjeux climatiques et la baisse des cours pétroliers ont déjà passablement embrouillé l'avenir des sables bitumineux et ce n'est pas terminé selon le Wall Street Journal qui évoque l'annonce très prochaine d'un changement de cap chez ExxonMobil. Deux mois après le retrait complet du géant norvégien Statoil, un article du quotidien new-yorkais, le Wall Street Journal, fortement repris vendredi par un ensemble de médias, laisse entendre qu'ExxonMobil pourrait confirmer dans la prochaine semaine qu'il abandonnera certains gisements albertains pour des raisons de rentabilité. Et si tel était le cas, le producteur américain viendrait allonger la liste des grands joueurs ayant décidé de modifier leur plan. Au moment où la faiblesse relative des prix du pétrole force les producteurs à réévaluer le coût d'extraction des ressources dans l'Ouest canadien, les groupes environnementaux militent pour que les investisseurs institutionnels et individuels s'éloignent du secteur pétrolier. Un exemple parmi d'autres, en passant, l'Université Laval qui a annoncé ce mois-ci qu'elle se retirait de tous les investissements pétroliers. Donc elle retire son argent du pétrole. L'Université Laval, comme toutes les universités ou l'ensemble des universités, a un fonds de développement. Certains des actifs sont en bourse et donc elle a annoncé il y a quelques jours qu'elle retirait ses billes du secteur pétrolier. Alors c'est l'une parmi de nombreuses autres institutions ayant pris cette décision dans les derniers mois. En plus des préoccupations climatiques et des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, poursuit cet article, un nombre croissant d'analystes font valoir que la transition vers des technologies moins polluantes rend ces actifs pétroliers de plus en plus risqués. Alors l'article du Wall Street Journal auquel fait référence ce papier du journal Le Devoir, je vous le donne, il est consultable sur Internet. Il faut être abonné cependant, donc je vous donne quand même le titre, Energy Companies face crude reality, better to leave it in the ground, high costs, low prices, et donc des coûts élevés, des prix très bas, hein. Le baril de pétrole n'est pas remonté au sommet qu'on a connu ces dernières années, et bien sûr il y a les réglementations environnementales qui ont de plus en plus de mordants. Alors les compagnies pétrolières décident de changer de cap conséquemment. Donc vous trouverez ça dans Le Devoir, mais aussi si vous voulez la source, dans le Wall Street Journal. Et sur le portail de Radio-Canada, on nous signale une fuite de 200 000 litres de pétrole léger d'un pipeline d'Enbridge, question de rester dans le secteur de l'énergie. Donc une fuite de 200 000 litres de pétrole. Les opérations de nettoyage sont en cours sur un site industriel du comté de Strathcona à l'est d'Edmonton après le déversement de quelques 200 000 litres de condensat, un type de pétrole léger obtenu à partir du gaz naturel. La direction de la compagnie Enbridge a affirmé dans un communiqué que l'oléoduc a été endommagé vendredi alors que des équipes des entreprises Ledcor et TransCanada effectuaient des travaux dans la zone. Donc ça manque pas de sel, en effet. Enbridge qui pointe du doigt des concurrents, des compétiteurs et les accuse d'avoir endommagé son pipeline et d'avoir causé cette fuite de 200 000 litres. Cinq autres pipelines de la pétrolière Enbridge qui se trouvent à proximité ont immédiatement été fermées par précaution. L'Office national de l'énergie a été appelé sur les lieux pour superviser les opérations de nettoyage et de réhabilitation des sites touchés par ce déversement. Donc 200 000 litres, indique cet article, ça correspond à environ 1250 barils de pétrole. Vous trouverez ça sur le portail de Radio-Canada. Sinon, une nouvelle qui était signalé sur le portail d'ONU Info qui est reprise dans tous les médias. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vitaly Churkin, est mort subitement. L'ambassadeur russe aux Nations Unies, Vitaly Churkin, en première ligne ces dernières années pour défendre la politique de Moscou, notamment en Ukraine et en Syrie, est mort subitement à New York lundi, aujourd'hui. Le diplomate qui devait avoir 65 ans demain a eu un malaise alors qu'il se trouvait dans les locaux de la représentation russe auprès des Nations Unies et a été transporté en urgence dans un hôpital de Manhattan, souffrant apparemment de problèmes cardiaques, ont indiqué des sources diplomatiques. Le ministère russe des Affaires étrangères depuis Moscou a fait part de son décès dans un communiqué. Vitali Churkin, qui était un diplomate de carrière formé à l'époque soviétique, avait été nommé à ce poste en 2006, 2 ans après que l'actuel ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, l'avait quitté. Et on note dans cet article que Vitali Churkin avait été ambassadeur de Russie au Canada, notamment. Il avait aussi été ambassadeur de Russie en Belgique. Alors, rien de suspect dans cette mort. On rappelle bien sûr que le diplomate russe qui était en poste en Turquie avait été assassiné par l'État islamique il y a quelque temps de cela. Et ça a fait évidemment causer une commotion sur la scène internationale. Donc, rien de suspects dans cette mort, du moins pour l'instant. Vous trouverez cette nouvelle dans plusieurs médias. Je vous ai lu quelques passages d'un article publié dans le média La Croix. Autrement, dans le journal Le Monde, la Grèce obtient de ses créanciers quelques mois de répit. Au terme d'une réunion de l'Eurogroupe aujourd'hui lundi, il a été acté que les représentants des créanciers retourneront à Athènes dans les prochains jours pour discuter dans le détail des réformes attendues en échange d'une nouvelle tranche de prêts. Faut-il croire les ministres des Finances de la zone euro qui, lundi 20 février, en soirée, à l'issue d'un Eurogroupe particulièrement court, ont assuré qu'une nouvelle étape très positive avait été franchie dans l'interminable feuilleton de la crise grecque. Donc, est-ce que c'est un faux espoir? C'est en substance ce que se demande le journal Le Monde. Les créanciers de la Grèce, à savoir le FMI, la Banque Centrale Européenne et le Mécanisme Européen de Stabilité, se sont mis d'accord et leurs chefs de mission vont pouvoir retourner dans le pays pour terminer la revue du troisième plan d'aide à la Grèce, s'est félicité le président de l'Eurogroupe. Alors, nous sommes sur la voie d'un accord exigeant pour que les Grecs voient enfin le bout du tunnel, a ajouté Pierre Moscovici, commissaire européen à l'économie. Voilà, donc la Grèce serait peut-être en passe de sortir de cette spirale d'austérité. Ça reste à voir. Les Grecs ont vraiment été dans une situation très, très difficile au cours des dernières années. C'est repris dans plusieurs médias. Vous trouverez ça sur le portail Le Monde. La Grèce obtient de ses créanciers quelques mois de répit. On reste en Europe, cette fois pour aller sur Bruxelles, capitale de l'Europe. À Bruxelles, Mike Pence joue l'apaisement auprès de l'Union européenne et la fermeté à l'OTAN. Alors Mike Pence, vous le savez, c'est le vice-président américain, le numéro 2 de Donald Trump. Le vice-président américain promet d'approfondir la relation avec l'Union européenne qui a été mise à mal par le Brexit. Et cet article se poursuit ainsi. Il n'est pas certain que Mike Pence, le vice-président américain, aura réussi à rassurer les Européens lundi 20 février lors de sa première visite à Bruxelles. Pas certain non plus qu'il sera parvenu à réparer les dégâts causés par les tweets ravageurs du président Donald Trump et par les propos de ce dernier de la mi-janvier, juste avant son investiture, quand il avait semblé vouloir affaiblir l'Union européenne en déclarant que le Brexit était une chose formidable et en parlant des projets et réalisations d'Angela Merkel comme des à l'égard des réfugiés, il avait qualifié le travail d'Angela Merkel de désastreux. Alors pas de quoi se faire des amis en Europe. Donc Mike Pence en Europe pour essayer de jouer l'apaisement, c'est ce qu'indique cet article du journal Le Monde. On termine en cinéma ce bloc nouvelle du jour. Le festival de cinéma de Berlin, la Berlinale, s'est terminé avec un gagnant. L'Ours d'or a été remis à la réalisatrice hongroise Ildikó Hegyedi pour un film intitulé On Body and Soul. Alors, ça faisait très longtemps que la Hongrie n'avait pas remporté les plus grands honneurs à ce festival prestigieux de Berlin qui figure dans le top 3 ou le top 4 des festivals de cinéma dans le monde, avec Cannes, bien sûr, Venise et Toronto. Alors, l'Ours d'Or est allé à une cinéaste hongroise. C'est dans le courrier international si vous voulez avoir les détails et visionner la bande-annonce. Autrement, toujours à propos de 7e art, et on ferme le bloc Nouvelles du jour avec cela, on a retrouvé un court-métrage de Jean-Luc Godard, le maître du cinéma, un des grands chantres de la nouvelle vague française. Godard, qui par ailleurs est d'origine suisse, a des dizaines de longs métrages derrière lui. Il a près de 90 ans aujourd'hui. On a retrouvé un court métrage qu'on croyait perdu. Il a été déposé sur YouTube. Ça s'intitule Une femme coquette. Le cinéaste l'a réalisé au tout début de sa carrière, avant de réaliser son premier long métrage À bout de souffle. Il avait signé une série de courts métrages et celui-là, on le croyait vraiment perdu à jamais. Il l'avait signé à l'âge de 24 ans seulement à Genève, région natale pour lui, et il a été déposé sur YouTube et plusieurs sites de cinéma s'en sont délectés, avisant tout de suite leur lectorat de le visionner. Donc si vous tapez Une femme coquette Godard sur YouTube, vous pourrez vous aussi le visionner. Donc on s'arrête là-dessus, on s'arrête sur ces deux brèves de cinéma. On retourne en musique, toujours avec l'artiste Raphaël Dénommé, une pièce qui s'intitule Le Cache-Sort, et de l'autre côté, avec si le temps nous le permet, on fera une petite revue des éditos. À tout de suite.
Cette vape, j'ai encore ma face, mais oui, le cash sort. Puis il reste de leur bon, mais oui, les quatre pattes dans la marche, la face de nez dans leur salade, et oui, le cash sort. Puis il reste de leur bon, mon heure, si où qui cache, te cache quand on sait qui crache dans la masse, c'est qui nous regarde de haut dans masse, c'est qui nous écrase comme des livres, mais oui, le cash sort. Puis il reste de leur bon. Les quatre coins de la planète, les bombes éclairent partout, ça pète pour le cash, ils vendent pas de vie humaine, les politiques économiques, j'appelle ça l'idéogamie. Puis quand le cash sort, ils nous saignent comme des bombes, alors c'est où qu'ils cachent le cash, c'est quoi, ils nous prennent pour des caves, ils nous regardent de haut dans masse, à gauche, à droite, ok, tout frage, mais oui, le cash sort.
Raphaël Dénommé dans le débrief à 16h47. Merci de nous écouter en direct en ce 20 février ou encore en rediffusion dans la matinée du 21 février. On va passer aux éditos. Le premier article que je vous signale, en fait, ça n'est pas tout à fait un édito. C'est un article qui parle de francophonie. Et si vous voulez explorer le sujet, plusieurs papiers ont été publiés là-dessus. La décision de la mairie de Paris d'y aller avec un slogan slogan anglophone pour sa candidature aux Jeux olympiques de 2024. Très étonnant. Alors, je vous lis quelques passages d'un article publié dans la presse canadienne et qu'on retrouve notamment sur le portail sportif rds.ca. Paris 2024, le slogan anglophone dérange. Un groupe de défense du français a déposé une contestation judiciaire à l'endroit du comité de candidature de Paris 2024 en raison de son slogan unilingue anglophone. L'avocat Emmanuel Ludo a dit vendredi avoir soumis une requête afin que soit suspendue l'utilisation du slogan « Made for sharing », donc « Fait pour le partage ». C'est le slogan qu'a choisi Paris pour sa candidature aux Jeux olympiques de 2024. Un slogan unilingue anglophone qui s'est affiché partout dans Paris, notamment sur la Tour Eiffel illuminée. C'est assez étonnant et il y a eu évidemment une levée de bouclier. Et je poursuis la lecture de cet article pour vous. L'avocat donc en question qui a déposé cette contestation judiciaire a également soumis un avertissement au comité de candidature que ce slogan pourrait contrevenir aux lois françaises. L'avocat a précisé que le groupe de défense souhaite que le slogan soit bilingue ou alors en français seulement. Le comité de candidature de Paris 2024 n'a pas immédiatement commenté. Donc ça, c'est très résumé. C'est l'article qui paraît dans la presse canadienne. De très nombreux articles, évidemment, ont été publiés sur le sujet chez nos cousins français. Il y a eu un tollé, et pas seulement à droite, hein, pas seulement sur ceux qui veulent, entre guillemets, conserver la langue française. C'est pas un dossier conservateur. C'est un dossier qui rassemble beaucoup de monde de tous les horizons du spectre politique. Bernard Pivot, un grand animateur de la scène culturelle et littéraire qui avait été dans les années 80 et 90 l'animateur de la série Apostrophe notamment a fortement critiqué ce slogan unilingue anglophone. L'Union des écrivains français a sévèrement critiqué ce slogan et s'est jointe à la contestation judiciaire en question. Il y a une pétition qui circule. Alors, on comprend pas pourquoi il faudrait, en 2017, sachant en plus que le français est l'une des langues officielles du mouvement olympique, on comprend pas pourquoi Paris a choisi d'exprimer sa candidature en anglais comme ça et de façon si... De façon si unilatérale, par exemple sur la Tour Eiffel. Donc vous trouverez de nombreux articles sur la question. Il y aura peut-être de nouveaux développements. Peut-être que la mairie fera marche arrière. Ça reste à voir. En tout cas, c'est une nouvelle que je tenais à vous signaler. Autrement, dans le portail Reporter, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse beaucoup aux questions environnementales. Reporter s'écrit comme planète. Terre. L'adresse, c'est reporter.net. On trouve ces jours-ci une entrevue du philosophe Edgar Morin. C'est en date du 16 février. Et on parlait tout à l'heure de Jean-Luc Godard, ce cinéaste de la Nouvelle Vague qui atteignait bientôt les 90 ans. Mais dans le cas d'Edgar Morin, c'est un nonagénaire accompli. Il a plus de 90 ans. Il est reconnu mondialement, c'est un des grands philosophes français et il a suivi le progrès, l'évolution des mouvements écologistes. C'est un humaniste, on peut dire, je crois, pour le catégoriser sans vouloir l'étiqueter trop, on peut dire c'est un humaniste. Il s'est toujours intéressé aux questions écologiques et le Média Reporter lui demande justement, avez-vous observé une progression de la conscience écologique depuis que vous avez commencé à vous intéresser à ces questions à la fin des années 60. Réponse du philosophe dans cet entretien. Cette conscience s'est montrée très partielle et très lente, dit-il, en dépit des catastrophes comme Tchernobyl, de tout ce que l'on sait de l'agriculture industrialisée, de la dégradation générale de la biosphère. Je pense qu'il faudra de nouvelles catastrophes pour que cette conscience s'amplifie. Et même quand on a pris conscience du réchauffement climatique, on s'est fixé de dessus et on a oublié les autres problèmes au moins aussi importants. C'est une conscience très difficile à faire entrer dans les esprits occidentaux parce que toute leur culture les a formés à séparer l'humain du naturel. Cela a commencé par la Bible qui fait que Dieu a créé l'homme à son image, séparé des animaux, dit-il. Puis Saint Paul, qui fonde le christianisme, dit que les humains ont droit à la résurrection, mais pas les animaux. Avec le développement de notre civilisation occidentale, Descartes dit que les animaux sont des machines et que la mission de l'homme est de dominer la nature. Et bon, vous voyez, c'est vraiment une analyse qui s'étoffe et s'étaye avec toute la pensée de cet homme et tout le savoir philosophique de cet homme, Edgar Morin. C'est à retrouver cet entretien dans le portail reporter.net en date du 16 février. Vous trouverez ça aisément en vous rendant sur la page d'accueil de ce média. Donc voilà, on va se rendre très rapidement à l'interview du jour. Je vous le disais, c'est Dominique Wozniak, responsable des communications à la Société francophone de Victoria, qui est avec nous aujourd'hui pour parler d'un spectacle d'humour qui aura lieu le 8 mars au Centre Da Vinci dans VicWest. Alors, je vous laisse aux informations de Dominique dans quelques instants. Il est 16h54. Merci d'être à l'écoute du débrief. À tout de suite. Vous écoutez l'émission Le Débrief en fin de journée à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. Nous recevons en studio la Société francophone de Victoria en la personne de Dominique Wozniak. Bonjour Dominique.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Alors on parle d'humour aujourd'hui. Il y a un grand festival d'humour connu mondialement, connu bien sûr de tous les Québécois puisqu'il a été fondé à Montréal. Juste pour rire, nous rend visite à Victoria prochainement. Mm-hmm. Comment ça s'articule, comment ça se décline tout ça?
Alors oui, Juste pour rire, donc c'est le festival d'humour par excellence. On ne le présente plus. Il a été créé en 1983 à Montréal.
Oui.
C'est le plus gros événement du genre au monde. Et il débarque chez nous, à Victoria, et on est tellement fiers de
pour nous faire rire.
Oui. Alors il débarque le jeudi 9 mars à partir de 18h30 au Centre Da Vinci, 195 rue Bay.
Oui, ça c'est dans VicWest, tout près du pont B et du Save on Foods, là, pour les gens qui veulent se situer à peu près mentalement.
Voilà, donc c'est un spectacle pour les adultes. Pour s'inscrire, vous pouvez vous rendre sur notre centre francocentre.com, notre site internet francocentre.com.
Oui.
Le prix est de $25 pour les membres de la Société francophone de Victoria. Mm-hmm. Et $30 pour les non-membres.
Et qui est au programme? Parce que c'est pas le festival en entier qui nous rend visite, évidemment. C'est une sélection triée sur le volet, on peut dire.
Oui, alors on est très très fiers d'accueillir le maître de cérémonie, Mario Jean.
Oui.
C'est un comédien et acteur qui nous présentera son spectacle. Il est très connu au Québec.
J'ai connu Mario Jean jadis quand j'étais... ça fait des années qu'il exerce. Il faisait des petits sketchs, des petits numéros pour un animateur qui s'appelle Normand Brathwaite à Télé-Québec, qui s'appelait à l'époque Radio-Québec. Bref, ça fait au moins 25 ans qu'il tourne. C'est un vieux de la vieille, comme on dit. Donc, c'est lui qui va agir à titre de maître de cérémonie.
Oui.
Et j'imagine qu'il aura un numéro personnel aussi.
Il aura un numéro personnel. Oui. Il va partager la scène avec trois autres humoristes, donc Jessie Chéhi, Franck Grenier et Didier Lambert.
D'accord. Est-ce qu'on peut répéter les noms pour que les auditeurs aient tout ça bien en note?
Il partagera la scène avec trois autres humoristes, Jessie Chéhi,
oui,
Franck Grenier et Didier Lambert.
Un quatuor d'humour que nous propose Juste pour rire ce soir-là. Donc le 9 mars, c'est un jeudi. Tu as indiqué les prix, Dominique, c'est au Centre Da Vinci.
Il faut s'inscrire par avance, bien sûr, sur notre site internet francocentre.com. Vous avez des bannières qui défilent, vous n'avez qu'à cliquer dessus, c'est très facile pour vous inscrire.
Formidable. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus d'humour, le soir précédent, le 8 mars, le mercredi 8 mars, il y a par ailleurs un autre spectacle d'humour de moins grande échelle, si on veut, mais qu'il est bon de mentionner quand même. Celui-là aura lieu à l'école Victor Brodeur, n'est-ce pas?
Alors c'est ça, à l'école Victor Brodeur, au théâtre Gérald Henriette Moreau, c'est la soirée d'humour européen avec Frédéric Recrozio. Il est suisse, donc on organise ce spectacle en collaboration avec le consulat général suisse. Et Frédéric Recrozio est un humoriste seul en scène. Il vient nous présenter son spectacle « Je suis vieux, pas beaucoup, mais déjà ».
D'accord, j'ai l'affiche sous les yeux. Ça pique la curiosité. En effet, je suis en page 14 du dernier numéro de votre publication Le Réverbère, où l'on a les deux spectacles côte à côte. Alors, je suis vieux, pas beaucoup, mais déjà. Et on a la tête de cet humoriste. Vraiment, je crois qu'on peut dire que personne ici ne le connaît, donc ça sera une découverte. C'est gratuit, tu me disais.
Alors, c'est gratuit, et puis c'est un excellent moment. On ne s'ennuie pas une seule seconde dans ce spectacle. Mm-hmm. C'est un spectacle qui parle du temps qui passe, et justement, voilà, c'est à propos de ça qu'on va rire.
Oui.
Le spectacle est suivi d'une collation. Et on vous invite encore une fois à vous inscrire à l'avance. Vous allez sur notre site internet, mm-hmm, francocentre.com, et tout est indiqué. Vous n'avez qu'à cliquer sur la bannière, ouais, et vous pouvez vous inscrire, ouais, par courriel.
J'étais sur le site il y a quelques jours, et les bannières sont très grandes. On peut pas les manquer. C'est pas compliqué. C'est sur la page d'accueil. Ça va sauter aux yeux immédiatement. Donc, un excellent programme. Évidemment, c'est le programme du Juste pour rire, le gala du jeudi soir qui occupe vraiment le haut de l'affiche, on va dire. Donc c'est ça le grand rendez-vous, le 9 mars. Un dernier mot en terminant, Dominique?
Eh bien, je vous invite à tous venir nous voir. On fait notre maximum pour la société, la communauté francophone de Victoria, et on vous invite à venir partager avec nous ces moments d'humour pendant le mois de la francophonie. Donc le mois de mars, c'est le mois mondial de la francophonie. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces rendez-vous qui sont,
oui,
organisés.
Oui, ça s'inscrit dans le, voilà, de le grand programme.
Donc venez vous impliquer avec nous, venez partager des bons moments et rire.
Formidable. Merci beaucoup, Dominique Wozniak.
Merci.
À bientôt. Ah, voilà, c'est un grand rendez-vous. Donc le jeudi 9 mars, spectacle d'humour piloté par Mario Jean au Centre Da Vinci. Vous pouvez réserver sur francocentre.com. Encore merci, Dominique, pour ces informations. C'est déjà tout pour le débrief. Il est 17h. On a actuellement 8 degrés au centre-ville. 70% de probabilité d'averse au cours des prochaines heures. Demain, c'est un mélange soleil-nuage avec un maximum de 8. Et on se retrouve à 16h comme d'habitude. Même heure, même fréquence. Bonne soirée à tous.